Merci d'écouter Osmose Radio, la web radio du Festival Off, et bien sûr, comme d'habitude, de nous regarder également sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire l'image, très important, l'image en communication. D'ailleurs, vous n'allez pas me dire le contraire, Alexandre de Limoges, mon invité, pour parler d'une pièce de théâtre Pharaon, Akhenaton ou Akhenaton. Le maudit, c'est au choix. Vous m'avez dit qu'on pouvait prononcer des deux façons.
Oui, oui, c'est ça. Dans cette langue telle qu'elle a été traduite, les hiéroglyphes, on n'a pas vraiment de voyelles. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut avec les voyelles.
Mais normalement...
Comme la langue arabe d'ailleurs.
Que doit-on dire ? Akhenaton ou Akhenaton ?
Alors il y a une espèce de... On pourrait dire Akhenaton, donc ça ressemble un peu à rien. Alors nous, on dirait plutôt Akhenaton.
Akhenaton.
Comme Toutankhamon, et pas oui. Toutankhamon. Mais qui est son fils. Hein. Donc Akhenaton, c'est celui qui est protégé de Aton. C'est un message important parce qu'il est né avec le prénom d'Amenophis, 4, Amon. Et puis il décide, lorsqu'il monte sur le trône, à 13 ans, de s'appeler Akhenaton, donc celui qui protège Aton. C'est un autre dieu, c'est donc l'inventeur. Akhenaton, c'est l'inventeur du monothéisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec le message de Jésus, et il a une histoire assez proche de Moïse, cet Akhenaton.
Mais vous m'avez dit que c'est un pharaon qui n'était pas, donc, il n'avait pas le pouvoir de régner.
Il régnait, donc il avait le pouvoir, mais il avait l'incapacité de régner. C'est-à-dire qu'on est sur la 18e dynastie de Pharaon, en 1350 à peu près avant Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est une famille donc assez dégénérée, assez consanguine. Donc sur la fin de cette 18e dynastie, on a Amenophis III, puis avec la reine Ti, puis leur fils Akhenaton, complètement difforme, assez malade. On le voit d'ailleurs sur ses sculptures, sur ses représentations. Il est totalement difforme, représenté d'ailleurs un peu comme un homme très féminin, avec très grandes fesses et tout petit torse. Il est très difforme. Il a la maladie de Marfan. Il a d'autres maladies dégénératives. Et puis son fils, ensuite, Toutankhamon, était complètement incapable de vivre vieux. Hein. Toutankhamon, il est mort à 19 ans et c'est, voilà, une famille vraiment dégénérée et sans enfants, puisque tous les enfants devenaient mort-nés, malheureusement. Donc, voilà, c'est la fin. Donc, c'est un pharaon incapable de régner parce que incapable de devenir mature, en fait, lui-même, et resté enfant. Donc, il est mort à 27 ans. Et ce spectacle raconte, donc, il s'appelle Pharaon Akhenaton le Maudit, parce qu'il raconte la dernière heure du règne de ce pharaon incapable de régner, qui va être démis de ses fonctions par ses ministres dans une heure. Il s'en rend compte, il pense que Dieu l'a abandonné, enfin, il se rend compte que quelque chose cloche. D'autant plus que ce qui est important dans sa vie, c'est Néfertiti, qui est sa femme, et qui est celle qui, tout à fait terre à terre, a régné pour lui. Et Néfertiti a disparu il y a quelques mois, et donc il est perdu. Voilà pourquoi il va être démis de ses fonctions dans une heure. Néfertiti a disparu et on apprendra pendant le spectacle pourquoi elle a disparu.
Mais un pharaon peut être démis de ses fonctions ?
Eh bien, non.
Ah !
Mais pour la première fois de l'histoire, oui. Voilà, c'est ce qui va lui arriver. Pour dire comme il a été loin dans son incompétence. Voilà, incompétence de régner et de prendre des décisions qui vont sauver l'Égypte. Mais pour autant, tout à fait compétent dans le fait de parler avec les dieux, dans le fait de créer de la poésie, dans le fait de... Voilà, il vit comme un enfant sur un nuage. D'ailleurs, on retrouve énormément de ses textes et de ses chansons dans l'Ancien Testament. Vraiment, voilà, il a des odes à la nature qui sont magnifiques. Tout le psaume 104 de l'évangile chrétien est basé sur le message d'Akhenaton. Certains, comme Freud, appellent Akhenaton Moïse. Pour certains, Moïse, qui est une légende, a existé sous les traits d'Akhenaton. C'était un petit peu compliqué de dire que ce pharaon, que celui à qui Dieu a parlé, était plutôt dégénéré et fou. Donc on a inventé une autre légende autour de ça, mais Akhenaton a par exemple voulu créer une nouvelle capitale. Il a traversé le désert en Égypte.
Oui.
Il a traversé le désert pendant des jours avec la cour et avec des dizaines de milliers de personnes pour créer cette nouvelle capitale. Au bout de plusieurs jours, ils ont traversé le Nil par une décrue, profitant d'une décrue du Nil. et installé cette capitale de l'autre côté du Nil. Et puis là, une des plaies d'Égypte est arrivée. Je ne sais plus si c'est les grenouilles ou les sauterelles, mais enfin bon. Voilà, le début d'une histoire de Moïse est pas très très loin là. Voilà.
Et votre spectacle, donc, c'est pour parler donc essentiellement donc de ce pharaon maudit.
Maudit parce qu'il a maudit par les prêtres d'Amon, c'est-à-dire maudit par le clergé en place, tout puissant à ce moment-là, mais béni par les futurs juifs et chrétiens, puisque c'est lui qui a initié cette religion. Donc, le spectacle s'appelle Pharaon parce qu'évidemment, ça se veut un spectacle pharaonique, dans le sens à la grandeur des pharaons. On va reparler évidemment des anciens dieux à tête d'animaux. On est dans le palais, on est sur une cour qui n'a pas l'autorisation de regarder dans les yeux ce pharaon. Bon, voilà, c'est un personnage qui est le fils des dieux sur terre, mais maudit parce que, eh bien, le clergé en place le déteste et le maudit. D'ailleurs, dès qu'il meurt, quelques mois plus tard, dès qu'il meurt, on efface toute trace de son passage, de son existence et de celle de Néfertiti, d'ailleurs. D'ailleurs, la momie d'Akhenaton n'a pas été clairement identifiée pour le moment. Donc, maudit dans un sens, mais génie, visionnaire, on va dire, créateur du monothéisme dans un autre.
Pharaon Akhenaton ou Akhenaton le maudit se joue au Petit Louvre à 11h45. Et justement, alors, le Petit Louvre, hein, le Louvre me fait penser à Paris, donc le grand écart. On part à Paris. Oui, le Louvre me fait penser à Paris, moi aussi. Mais aussi,
il faut préciser qu'au Louvre, on peut voir, il y a une salle dédiée à Akhenaton. Hein.
Ah!
Complètement dédié à Akhenaton. Pourtant, on a récupéré assez peu de choses d'Akhenaton. On en trouve peu. Mais il y a une sublime statue qui montre d'ailleurs sa dégénérescence physique, sa maladie physique, mi-homme, mi-femme d'ailleurs, du coup. Une terrible culotte de cheval, on pourrait dire. Mais cet art est d'une modernité et d'une beauté incroyable. Et on voit aussi au Louvre cette esquisse du buste de Néfertiti. Ce fameux buste qui est au musée de Berlin, là, très, très beau. On voit l'esquisse de son sculpteur, qui était l'amant de Néfertiti, d'ailleurs, au passage, au Louvre. Mais là, je vois bien où vous vouliez en venir. Vous vouliez parler de Gustave Eiffel.
Et de la Tour Eiffel.
Et de la Tour Eiffel.
Surtout, Gustave Eiffel, connu parce que, une de ses créations, la Tour Eiffel. Au passage, je voulais quand même citer que la Tour Eiffel, c'était prévu, normalement, pour une vingtaine d'années, pour une exposition.
Oui.
Temporaire.
Oui, tous les monuments créés pour une exposition universelle doivent durer 20 ans et seront ensuite ou revendus ou démontés. La Tour Eiffel devait donc être démontée. Donc c'est l'exposition universelle pour fêter le centenaire de la Révolution française. Donc on est en 1889. Et dans ce spectacle, Gustave Eiffel, enfer et contre tous, il y a un petit jeu de mots évidemment, parce qu'il avait tout le monde contre lui, les ingénieurs en premier, les artistes en second, et le gouvernement en troisième, mais enfer et contre tous. Voilà, ça explique, on est à 3 mois de l'inauguration de la tour dans ce spectacle, et on est ce matin à une grève de charpentiers italiens au deuxième étage de la tour. Pour autant, on doit livrer cette tour pour l'exposition universelle dans les temps, donc on doit les remettre au travail sans les augmenter. Et on va y arriver donc dans une heure, en discutant ensemble avec le public pendant une heure sur le contexte social, politique, artistique. Eh bien, on va réussir à les remettre au travail, ces ouvriers, et sans les augmenter. Donc, objectif atteint pour ce Gustave Eiffel qui a inventé des milliers de monuments, mais aussi qui a inventé le management à l'américaine. Donc, c'est pour ça que cette histoire de grève, elle est importante. Et puis, dans le même temps, troisième fil rouge pour Gustave Eiffel, enfer et contre tous, c'est le scandale du Panama. Il est à ce moment-là complètement trempé dans cette affaire du Panama, Gustave Eiffel, traumatisé. Il va d'ailleurs tout plaquer à cause de ce scandale du Panama, puisqu'il est accusé du suicide de milliers de personnes. Voilà, je ne raconte pas toute l'histoire, mais en tout cas, le fil rouge du spectacle, c'est la grève de charpentiers italiens au deuxième étage, charpentiers qu'il faut remettre au travail sans les augmenter, et à côté de ça, le scandale du Panama, qu'il faut raconter. Voilà, donc on est sur un spectacle assez technique, assez masculin, assez terre-à-terre, où toute la fougue de la révolution industrielle est là, bien sûr. On est loin de la romance du film, qui n'a rien à voir.
Vous pensez que la Tour Eiffel sera démontée un jour, puisqu'on régulièrement on en parle
On parle de la démonter tout le temps, oui, c'est vrai. Donc au bout de 20 ans, en fait, il y a eu un tel succès touristique que du coup, on l'a prolongé d'encore 20 ans. Et puis ensuite, on a dit, bon, on va la démonter. Alors, Gustave Eiffel, encore vivant, a supplié au moins d'avoir 10 ans. Il a eu 10 ans. Et puis, 10 ans de plus. Donc en tout, elle a vécu 50 ans. Et là, on est tombé pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, pendant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, elle s'est révélée fort utile puisque Gustave Eiffel travaillait à l'élaboration de l'aérodynamie, donc l'aviation, mais aussi de la radio. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, on a récupéré des messages allemands, ce qui a sauvé finalement la tour puisqu'on s'est dit qu'elle était finalement utile. Et c'est dans les années 1960, par là, qu'on s'est dit à nouveau, il faut la redémonter parce que personne ne l'aime, cette tour. Et heureusement, dans les années 70-80, le tourisme est revenu. Mais dans les années 70, elle devait être démontée normalement. Hein. Donc on a eu de la chance sur ce coup-là. On a eu d'autres chances, puisque c'est l'Espagne qui devait construire la tour Eiffel au départ. Et puis qui finalement l'a laissée à Paris sur un coup de hasard. Mais on a de la chance d'avoir ça à Paris.
Alexandre de Limoges, on va rappeler donc vos deux spectacles. Pharaon Akhenaton. Le Maudit, que vous jouez en alternance avec votre second spectacle que nous venons d'évoquer.
Gustave Eiffel, Enfer et contre tous.
Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Oui, j'ai une petite question là, qui me vient à l'esprit. Là. Vous m'avez parlé de charpentier sur la tour Eiffel, mais la tour Eiffel est en fer. Pourquoi le charpentier, normalement, c'est du bois?
Alors, ce sont les. En plus, je dis charpentier pour simplifier l'histoire. En vrai, ce sont des alpinistes italiens.
D'accord.
Qui étaient les charpentiers, les ouvriers qui boulonnaient. Enfin, c'était pas des boulons, c'était des rivets, mais qui montaient la tour. Voilà, il y a 24 équipes de 4 personnes qui sont là-haut et qui bravent le vertige. Mais Gustave Eiffel n'était pas si fou que ça. Hein. Il avait quand même mis des filets et donc on n'est pas sur un monument qui a fait des milliers de morts comme les autres. Non, non, lui, zéro mort. Donc on peut dire qu'il était fort en management, mais il était aussi fort en organisation et en souci. On parle du premier patron de gauche avec Gustave Eiffel, par exemple. Donc oui, vous avez raison, ce ne sont pas des charpentiers dans ce sens-là, mais il me semble que partout, on parle de charpentiers. On dit quand même les monteurs, les rifteurs, les riveurs, mais les charpentiers.
Oui, parce que régulièrement, de toute façon, il y a toujours des personnes qui
remontent.
Qui remontent sur la tour Eiffel parce qu'il faut...
Il faut décliper, repeindre,
voilà, exactement. Donc,
rénover.
Il y a toujours des petites mains donc, qui s'activent sur la tour Eiffel.
Oui, parce qu'elle n'était pas du tout prévue pour durer longtemps. Bah ouais. Donc c'est vrai qu'il faut travailler dessus. Les ascenseurs, par exemple, on les utilise, ceux de l'époque, on les utilise plus très souvent. Aujourd'hui. Mais ce spectacle, je ne veux pas en parler trop parce qu'il se joue juste les jeudis à 11h45. Il était complet aujourd'hui, il est déjà complet jeudi prochain, donc je pense qu'il sera complet. Alors, n'en parlons pas trop parce que, voilà, et les relâches, c'est mercredi et c'est Pharaon qui se joue du vendredi au mardi, du coup.
D'accord.
Voilà.
Ben, rappelez puis, donc.
Vous m'avez déjà invité plusieurs fois pour parler de Gustave Eiffel puisque ça fait la 8e année.
D'accord.
Et donc, je l'ai joué plus de 1000 fois, voilà.
Eh bien, écoutez,
et Pharaon, c'est donc tous les autres jours. C'est toujours à 11h45 au Petit Louvre, dans la salle Van Gogh. Très belle programmation, très beau théâtre. Je suis heureux, moi, là-bas.
Eh bien, bonne fin de festival. Merci,
Alexandre. Merci et bon festival à tous ceux qui nous écoutent. Il y a des beaux spectacles. J'ai remarqué, alors grosse concurrence, j'ai remarqué que de 11h à 13h, il y a plein de super spectacles historiques. À la même heure, tous à la même heure. Mais bon festival, un bon choix à tout le monde, un bon courage.
Merci à vous.
Merci.